Il y a beaucoup de sujets dans l'actualité, dans votre journal par exemple, qui requièrent le regard de la psychanalyse, et c'est la raison pour laquelle j'ai invité Elisabeth Roudinesco. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Roudinesco, vous êtes historienne de la psychanalyse, chercheuse associée au département d'histoire de Paris 7, collaboratrice du Monde des Livres, et vous publiez un dictionnaire amoureux de la psychanalyse dans lequel on trouve une entrée Göttingen, et c'est la raison pour laquelle je vais vous faire entendre l'extrait d'une chanson de Barbara, Qui est qui ?
De quelle nouvelle Babylone viennent ces belles Amazones, avec leurs franges sur leurs fronts, sont-ce des anges ou des démons? Qui sont-ils ou qui sont-elles sous leurs fossiles, sous leurs jartelles, sous leurs poitrines de silicone, perruques platines et lèvres chaudes, sous leurs tignasses incandescentes, leurs robes de strass phosphorescentes? Talons aiguilles et barésies, comme des filles de pacotille. Mais qui est qui, parmi tous ces travestis, cherchez la femme? Qui est qui, on ne sait plus qui on suit, est-ce un drame? Qui est qui, peu importe notre anatomie, ce qui compte, c'est ce qu'on nous a
dit. Un extrait de Qui est qui de Barbara, ce sont les bandes de l'enregistrement studio de Lily Passion qui avait disparu depuis des années. Elles ont été retrouvées par hasard et voici donc un extrait de cette comédie musicale, Göttingen. Cela évoque Barbara, cela évoque aussi d'autres choses, une ville importante pour la psychanalyse. Expliquez-nous pourquoi en quelques mots, Elisabeth Roudinesco.
Göttingen, d'abord, j'ai fait beaucoup d'entrées villes parce que j'ai voulu faire une géopsychanalyse de façon assez arbitraire à la première personne en évoquant tous ces voyages. Göttingen, c'est la ville de Lou Andrea Salomé. C'est là qu'elle a exercé la psychanalyse, qu'elle a habité dans cette maison. Elle avait sa maison et donc j'ai associé les deux destins. Celui de Lou Andrea Salomé qui a été ensuite la maison a été pillée par les nazis, enfin c'est tragique bien sûr, et puis Barbara, je peux pas évoquer Göttingen sans Barbara, dont qui a été l'objet de beaucoup d'interprétations psychanalytiques pas forcément justes. Mais le souvenir d'enfance de l'Aigle Noir. J'ai commenté cette chanson, bien sûr aussi Göttingen, puisqu'elle avait été abusée sexuellement par son père, et qu'il n'y a pas de doute que, elle a dit elle-même dans son magnifique livre, que l'Aigle Noir est à la fois protecteur et terrifiant. Et ça, c'était quelque chose qui renvoyait aussi au souvenir d'enfance de Léonard de Vinci sur le vautour. J'ai une entrée aussi, Léonard de Vinci. Donc j'ai brodé sur ce thème et sur les deux tombes, la tombe de Lou Andrea Salomé qui est là-bas, et puis les roses de Barbara. Donc voilà, oui, bien sûr, Göttingen est important de tous les points de vue.
Il y a beaucoup d'aigles noirs et de vautours dans l'actualité ce matin. Il y a une histoire d'agression sexuelle qui nous occupe aujourd'hui. Elle nous vient des États-Unis. Il s'agit d'un producteur d'Hollywood, Harvey Weinstein, qui est accusé par de nombreuses femmes aujourd'hui de les avoir harcelées, de les avoir agressées. Et j'aimerais votre regard d'historienne de la psychanalyse, de personne qui a pratiqué la psychanalyse, sur ce type d'agissement, Elisabeth Roudinesco.
Alors, évidemment pas sur ce personnage dont je viens de découvrir l'actualité, on ne peut jamais rien dire tant qu'on ne connaît pas tout le dossier. Mais l'exhibitionnisme, le harcèlement sexuel existe depuis toujours. La caractéristique, ce sont ce qu'on range ça dans les dictionnaires. J'aime beaucoup les dictionnaires. Il n'y a pas d'entrée perversion dans celui-là, mais dans un autre dictionnaire, c'est ce qu'on appelle les perversions sexuelles, qui ont été très bien étudiées, qui sont très bien étudiées d'ailleurs aujourd'hui. Et apparemment, d'après les témoignages, mais il faut attendre, enfin, il y en a d'autres sur d'autres, c'est le fait de s'exhiber nu, le fait d'envoyer des photos aux uns aux autres, de harceler, c'est l'idée...
Des photos qui n'ont pas été demandées.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, ça s'appelle l'exhibitionnisme.
Comment vous l'expliquez ?
comment expliquer la sexualité humaine ?
Non, l'exhibitionnisme, d'abord.
Être vu, voir, être vu et voir, c'est-à-dire transformer sa propre sexualité en objet de regard, et non pas du tout dans le registre de l'amour ou de la sexualité. C'est vraiment, c'est fréquent. Il y a beaucoup d'exhibitionnistes dans le métro. Alors, il y a des caractéristiques aussi. Il y a des exhibitionnistes qui ne harcèlent pas, qui disent pas un mot, qui s'exhibent dans le métro. Il faut toujours mettre en garde les enfants contre ça, bien entendu. Mais c'est une des grandes tendances de la sexualité, l'exhibitionnisme.
Est-ce qu'il faut relier ça à ces hommes de pouvoir, en tout cas à cet homme de pouvoir, Harvey Weinstein? Est-ce qu'il y a là une manière d'imposer sa domination, de s'exhiber en cherchant en quelque sorte à montrer à ces femmes qu'il leur est supérieur ?
Non, parce qu'il y a des... peut-être dans ce cas-là, mais ce n'est pas forcément la domination, l'exhibitionnisme. Ça peut être des gens qui n'ont rien, ça peut être des malheureux qui font rien d'autre que s'exhiber d'ailleurs, qui doivent être soignés. Ce n'est pas spécifique à une classe sociale ou à une domination. C'est transformer une sexualité en exhibition du sexe. Alors, masculin, bien entendu, la plupart du temps. Chez les femmes, l'exhibitionnisme est un petit peu différent, mais il existe aussi.
Comment se distingue-t-il ?
Les femmes qui exhibent aussi tout au détriment, qui transforment leur propre corps en objet d'exhibition. Ça peut être une partie des gens qui se... des tatouages, des manières de scarification du corps. Vous savez, le registre de toutes ces souffrances qu'on s'inflige au corps, c'est sans limite. Alors, évidemment, là, on a un cas plutôt de harcèlement, c'est-à-dire où il a besoin du spectacle des autres.
Alors, il n'y avait pas que de l'exhibition chez lui, il y avait aussi des agressions, des viols, l'enquête le dira. Mais justement, Elisabeth Roudinesco, le fait de vouloir imposer sa sexualité à l'autre, de ne pas entendre du tout les désirs de l'autre, là aussi, quel regard portez-vous sur ce type de comportement ?
Je pense que tout dépend. La sexualité entre adultes, les perversions sexuelles entre adultes, vous le savez, ne sont plus condamnées par la loi quand elles sont entre personnes majeures et consentantes. Il y a des lieux pour ça, ça s'appelle les clubs échangistes. C'est toute une littérature, c'est tout un comportement sexuel, domination, passivité. Il y a une littérature considérable sur ça. Le problème qui est posé aujourd'hui, c'est pas ça, c'est les personnes non consentantes.
Bien entendu.
Ils sont harcelés. Et là, ça tombe dans le registre, évidemment, de la loi. Je crois que ça a toujours existé, mais on en parle évidemment beaucoup plus de nos jours, ce qui est une bonne chose. Parce que d'abord, les femmes peuvent porter plainte. À partir de ce moment-là, il faut être d'ailleurs prudent, parce que c'est probablement... tout est vrai, naturellement. Mais à partir de quel moment elle porte plainte après avoir gardé le silence par peur, par terreur? Je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même un énorme progrès. C'est qu'on peut en parler. Voilà.
On peut en parler, mais il reste quand même une interrogation sur les agissements de ces hommes. Alors, je sais que vous avez l'habitude d'être interpellé par des journalistes sur ce thème, puisque vous racontez dans votre dictionnaire qu'en mai 2011, lorsque Dominique Strauss-Kahn a été arrêté à New York, un hebdomadaire vous a appelé à 7h du matin.
7h du matin.
Mais alors, justement...
Je n'étais même pas au courant.
Donc, les cas sont évidemment dissemblables, d'autant qu'on ne sait pas encore précisément ce qui s'est passé dans le cas d'Harvey Weinstein. Mais lorsque, par exemple, on vous a questionné sur le cas de Dominique Strauss-Kahn qui était autre, qu'est-ce que vous vous êtes dit,
Elisabeth Roudinesco ? Je me suis dit, les médias délirent. Première
Pourquoi
réaction, mais parce que je n'étais même pas au courant de l'histoire. On me téléphone en me demandant un avis sur un événement considérable, une répercussion mondiale sur un grand personnage. C'est à l'entrée du dictionnaire célébrité, je le raconte avec humour quand même. Et j'ai dit, je peux rien dire. On me demande s'il est pervers. On ne peut pas donner un diagnostic foudroyant sans connaître ce qui s'est passé, d'autant qu'il ne s'agissait pas du tout du même problème. Et ma stupéfaction, et ça c'est une critique que je fais beaucoup aujourd'hui, c'est qu'une semaine plus tard, un grand quotidien publiait une quinzaine de diagnostics de psy de tous bords, tous différents. Et c'était presque immédiat, alors qu'on ne savait absolument rien de cette histoire extrêmement complexe, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec, avec l'autre. Et ensuite, compte tenu de ce que c'est devenu, nous savons maintenant, et je le dis, que sur Dominique Strauss-Kahn, il y a une littérature américaine considérable, il y a des thèses entières sur l'affaire du Sofitel, puis l'affaire du Carlton. Donc ça veut dire que le sexe est devenu dans notre société un objet d'étude moins psychanalytique que sexologique, qui est une espèce de curiosité. Alors, ma critique dans ce cas-là, c'est le désir immédiat des médias dans le présentisme d'avoir une explication qu'on ne peut pas donner tant qu'on n'a pas connaissance des faits et de ce qui se passe, puisque chaque chose est quand même différente. On peut généraliser, mais chaque cas est différent. Et surtout, moi, je m'abstiens toujours de tout quand on ne connaît pas l'ensemble de ces jugement, il faut savoir.
Pourtant, pour prendre des référents historiques, d'ailleurs vous en avez donné quelques exemples tout à l'heure, Freud n'hésitait pas à faire la psychanalyse de Léonard de Vinci, à évoquer Moïse, des gens qui ne s'étaient pas allongés sur son divan, Elisabeth Roudinesco.
Enfin, quand il a écrit ce magnifique texte, Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, sur lequel j'ai fait une entrée, il s'est d'ailleurs beaucoup trompé, mais c'est un texte littéraire magnifique. Il avait lu 15 biographies de Léonard de Vinci, il avait étudié le dossier, il interprète. Alors ça, oui, on peut toujours le faire. Même chose quand j'en parle aussi dans le dictionnaire, sur les présidents américains, notamment sur le président Wilson. Il avait lu, il avait des documents. C'est tout à fait autre chose sur dossier. On peut écrire.
Parce que sur Dominique Strauss-Kahn, il y avait donc une surprise quand on vous a appelé à 7h du matin, mais vous connaissiez le personnage par les médias. Par les médias.
Oui, mais oui. Pas. Cette affaire a surpris tout le monde. À ce point, ce que c'est devenu, non. Jamais je me serais prononcée en une semaine. Voilà.
Et alors, justement, c'est cela aussi qui est surprenant, et c'est peut-être... un point commun, je ne sais pas si c'est le seul point commun entre l'affaire de Dominique Strauss-Kahn et celle d'Harvey Weinstein, c'est qu'il y a eu un silence, enfin en tout cas, personne n'a rien dit, rien su. C'est un sujet sur lequel ensuite la société française a beaucoup débattu, les médias ont été incriminés également, et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour Harvey Weinstein. On n'a jamais rien dit sur cet homme de 65 ans, et puis aujourd'hui, il commence à y avoir des témoignages, il y a une avalanche de témoignages, et alors c'est le procès de l'Omerta qui a précédé la découverte de ces faits. Que pensez-vous de la manière dont le silence a été instauré? Alors les victimes disent que dans leur situation, elles ne pouvaient pas parler. Est-ce qu'il y a en quelque sorte une domination si terrifiante que celle-ci impose le silence aux victimes, Elisabeth Roudinesco?
Laissons tomber Dominique Strauss-Kahn, c'est pas du tout la même histoire. Voilà. Mais pas du tout. Alors maintenant, là, on a affaire à tout à fait autre chose, donc il faut évidemment attendre. La question de l'omerta, de tout le monde sait, personne ne parle. Nous vivons dans un état de droit, et je tiens à le répéter, parce que c'est capital qu'il y ait le droit qui s'en mêle. On ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas une parole, tant qu'il n'y a pas une plainte qui est portée. Donc, bien entendu, on est toujours du côté des victimes. On peut écouter des victimes qui viennent d'ailleurs parler à des psys, il y en a beaucoup, et surtout les femmes battues, les femmes harcelées. Simplement, ce qu'on sait, c'est qu'elles ont beaucoup de mal à porter plainte, notamment quand il s'agit de violences conjugales, qu'elles sont battues. Les femmes battues, il y a beaucoup d'associations qui s'en occupent. Mais en droit, on ne peut rien faire, tant que il n'y a pas cette parole. Donc, la seule solution, c'est de pousser les personnes qui sont agressées de cette façon-là à venir en parler, à porter plainte, à sortir de leur terreur de parler, parce que sinon, c'est pas qu'il y a omerta, il y a que la victime ne veut pas parler. Et tout le monde sait à l'entourage, bien sûr. Et moi, chaque fois que j'en ai rencontré, tout le monde en rencontre, je dis, vous pouvez rien faire d'autre que de porter plainte, de prendre un avocat. Parce que maintenant, par rapport à il y a un siècle et même 50 ans, on a des lois qui permettent de regarder l'affaire Baupin, regarder toutes les affaires.
Mais justement, dans l'affaire Baupin, il y a eu récemment une polémique à la télévision avec notamment Sandrine Rousseau qui expliquait à quel point il lui avait été difficile, alors que c'est une femme politique, de dire les choses. Vous avez probablement entendu ces femmes, non pas comme nous les entendons chaque jour, mais vous les avez peut-être entendues sur le divan. Peut-être que, justement, vous avez une autre manière de les entendre.
Non, parce que, je vais vous dire, j'ai pas du tout aimé cette émission. Et j'ai trouvé que, je parle là de l'émission chez Laurent Ruquier, j'ai trouvé tout à fait insupportable l'agression de Christine Angot contre cette femme. Voilà quelque chose que je n'aime pas du tout dans les médias d'aujourd'hui, c'est l'injure, l'insulte. On a là une femme qui a quand même été victime, qui écrit un témoignage et on lui demande de se justifier littérairement pour savoir si son témoignage est bon ou mauvais ou vrai. Non, j'ai été très gênée par ce dialogue. Là il s'agit de deux femmes, hein. Donc c'est assez insupportable.
Mais alors peut-être que là, il y a un élément de réponse. Peut-être que la société est encore extrêmement dure vis-à-vis des victimes. On a cet exemple-là, on pourrait en citer d'autres. Peut-être que, justement, contrairement à ce que l'on dit, eh bien, on est beaucoup moins compassionnel qu'on ne prétend l'être. Et du coup, ces victimes sont renvoyées finalement à leur solitude et à l'absence de secours.
C'est pas le cas de cette femme qui a témoigné, qui était en larmes finalement. Non, elle va être aidée, c'est une très bonne chose. Elle a été violemment agressée, ça renouvelait l'agression. Là quand même, le producteur de l'émission est quand même responsable. Moi je n'aime pas. J'ai une entrée injure dans mon dictionnaire, je tiens à le dire, une entrée injure extraordinaire. J'ai fait avec humour, hein. Mais enfin, la psychanalyse est injuriée depuis qu'elle existe. Moi-même, j'en donne quelques-unes. Freud est injurié, tout le monde est injurié. Et je trouve qu'on vit dans une société. Alors, c'est la contrepartie aujourd'hui de la liberté de parole. Je crains que souvent les polémiques intellectuelles, ce qui devrait être des controverses, moi j'aime beaucoup les controverses, j'en cite une sur Descartes que j'aime beaucoup. Ce que j'aime dans les controverses intellectuelles, c'est quand les deux ont raison. Voilà. Autrement dit, préférez-vous le rugby ou le football? J'aime bien ce genre de controverses. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on est dans des polémiques bashing, hein, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire de destruction. On s'injurie énormément. Les réseaux sociaux sont aussi. Et pour ces histoires-là, il faut du calme.
Elisabeth Roudinesco, on vous retrouve dans quelques instants aux environs de 8h20. Dictionnaire amoureux de la psychanalyse, c'est ce que vous publiez aux éditions Plomb et aux éditions Seuil.